vraiment que vous êtes prêts. Vous avez vu le verset qu'il y a sur le mur ? C'est pas juste un sticker. Et c'est vrai que là, dimanche après dimanche, ben, c'était cool. Au début, on le voyait beaucoup. Puis maintenant, de plus en plus, ça fait partie des murs, ça fait partie du décor. Mais je crois que c'est vraiment important de se rappeler que cette année, particulièrement, avec les anciens, on a vraiment envie de se focaliser encore plus profondément sur la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Et ce matin, on va la voir, la gloire de Dieu. Alors, pour ceux qui ont raté les épisodes précédents, on est dans Exode. Donc pour ceux qui ont l'habitude, ça fait 3 semaines qu'on n'en a pas entendu parler. Pour ceux qui ont un peu moins l'habitude, j'aimerais faire un petit contexte. Sans oublier que forcément, vous pouvez entendre toutes les prédications, non pas sur Netflix, mais sur Internet, sur le site. Bon, peut-être que le diapo arrivera. Concernant le contexte, donc on est dans Exode. On a parcouru tout le début d'Exode et puis on en arrive maintenant sur Exode 11 et 12. Donc pour vous faire un petit peu le topo, le peuple d'Israël, depuis le début, donc, est en Égypte. Ils sont devenus nombreux, ils sont devenus puissants. Le pharaon est inquiet, il est réduit en esclavage. Et dans ce contexte, Dieu protège Moïse, Dieu appelle Moïse. Et à travers le buisson ardent, il lui dit « Va libérer mon peuple ». Moïse retourne en Égypte avec Aaron et il demande à Pharaon de libérer les Israélites, mais il refuse encore et encore et encore. Alors Dieu envoie plusieurs plaies, et Andrew nous en a parlé il y a 3 semaines sur le dernier passage. L'eau changée en sang, les grenouilles, les moustiques, les mouches, la peste, les ulcères, la grêle, les sauterelles et les ténèbres. Et à chaque fois, Pharaon s'enfonce dans son péché, Pharaon endurcit son cœur et ne laisse pas partir le peuple. Et c'est là qu'on est ce matin. Dieu s'apprête à agir d'une manière encore plus puissante. Donc là, avec ce résumé, normalement, tout le monde est au même niveau. C'est bon ? On y est ? Donc j'ai la joie ce matin, l'honneur de pouvoir clôturer cette saison avec Exode 11 et 12. C'est pas le passage le plus simple, mais on y va. Et pour cette dernière plaie, la 10e, que Dieu confirme, et cette sortie d'Égypte, c'est plus Moïse qui va œuvrer avec ses mains ou avec son bâton, mais c'est Dieu lui-même. Pourquoi je dis que Dieu vient confirmer cette plaie ? Dieu avait déjà dit à Moïse ce qui allait se passer, comment ça allait se passer, comment ça se terminerait. On l'a lu dans Exode 4. Israël est mon fils, mon premier-né, je te dis, laisse partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, alors moi, je ferai périr ton fils, ton premier-né. On l'a lu un petit peu plus long aussi dans Exode 6. C'est sous l'emprise d'une main puissante qu'il laissera partir le peuple, et c'est sous cette emprise qu'il le chassera de son pays. Et on arrive à Exode 11, au verset 1. Je vais envoyer une dernière plaie au Pharaon et à toute l'Égypte. Et après quoi, il vous laissera partir. Et quand enfin il vous laissera partir, il ira même jusqu'à vous chasser d'ici. Donc c'est quoi cette plaie ? Je vais survoler le chapitre 11 et je vais vraiment plus me focaliser sur le chapitre 12. Mais concernant cette plaie, Exode 11 dit du verset 4 au verset 8, si vous voulez prendre votre Bible, si vous ne l'avez pas déjà. Moïse dit au Pharaon, « Voici ce qu'a dit l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je m'avancerai dans l'intérieur de l'Égypte, et tous les premiers-nés vont mourir dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né du Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui travaille aux meules, et tous les premiers-nés du bétail. Il y aura de grands cris dans toute l'Égypte tels qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais. Mais chez les Israélites, pas même un chien n'aboiera, ni contre un homme, ni contre une bête, afin que vous reconnaissiez la différence que Dieu fait entre l'Égypte et Israël. Alors tous tes serviteurs viendront se prosterner devant moi en disant, « Sors, toi et tout le peuple qui te suit. » Je vous ai prévenu, il va y avoir beaucoup de choses aujourd'hui. Avant d'envoyer cette dernière et dixième plaie, Dieu va donner à Moïse des instructions très précises. Et c'est ce qu'on va évoquer ce matin avec l'institution de la Pâque. Donc, je reprends ma lecture. Là, maintenant, on bascule sur le chapitre 12, au verset 3. Qui dit « Parlez à toute la communauté d'Israël et dites, le 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. Si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son voisin le plus proche de la maison, selon le nombre de personnes. Vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, intact, parfait, selon les versions. Mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang, on le mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on en mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair et on la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez pas à demi-cuit, ni bouilli dans l'eau, mais ce sera rôti au feu, la tête avec les pattes et les entrailles. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Voici comment vous le mangerez, une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Marie. Vous le mangerez à la hâte, et c'est la Pâque de l'Éternel. Et là, je fais une pause. Dieu est très clair et il donne des précisions très nettes sur la façon dont la Pâque doit se dérouler. Et on sait par expérience que quand Dieu donne ces détails, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas anodin. On va le voir plus tard. On continue, verset 12. « Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons, et vous serez où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai au-dessus. Et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. Je passerai au-dessus. » Passer au-dessus. Pessah, c'est ça, Joël ? C'est ça la Pâque, passer au-dessus. Le fléau destructeur ne touchera pas les maisons de ces familles qui auront posé le sang. Par cette dixième et dernière plaie, Dieu montre qu'il a été patient, mais qu'il est souverain et que c'est un Dieu juste. Dieu vient aussi répondre directement à Pharaon, qui avait, tout au début de l'Exode, ordonné de tuer les bébés hébreux, garçons, au début. Par cette dixième plaie, il vient déclarer sa propre victoire sur l'avenir de son peuple et a impacté le peuple égyptien parce que dans la culture égyptienne, le premier-né, le premier de la famille, représentait la force, représentait la bénédiction, l'avenir, la transmission. Et finalement, par cette dixième plaie, Dieu vient libérer son peuple par substitution. L'agneau sans défaut, l'agneau intact. L'agneau parfait du verset 5 meurt à la place du premier-né de toutes ces familles qui viennent mettre le sang sur les linteaux et sur la porte. Par cet agneau et par son sang, le peuple a été libéré cette nuit-là. Par cet agneau, par son sang, le peuple a été préservé du fléau destructeur cette nuit-là. Par cet agneau et par son sang qui a été versé, le peuple d'Israël a pu sortir d'Égypte après 430 ans d'esclavage. Par cet agneau et par son sang, vous voyez où je veux aller ? C'était il y a 3500 ans. Mais aujourd'hui, comment ça se passe ? Comme le cœur de Pharaon, le monde d'aujourd'hui dans lequel on vit a endurci son cœur. Le monde dans lequel on vit est noyé dans le péché. Et on a eu des prédications récemment sur l'idolâtrie avec Farid, l'église persécutée avec Luc. On voit le péché quotidiennement dans ce monde. Et l'esclavage existe encore aujourd'hui. Il n'est plus celui de l'époque, mais il existe encore aujourd'hui. Alors regardons ce que dit Romains 6, 23, ou au moins la première partie du verset. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors oui, ça fait pas du bien à entendre, mais c'est la réalité. Le salaire du péché, c'est la mort. Et on a souvent tendance à l'édulcorer, mais ce matin, je ne vais pas le faire. Pharaon a son cœur endurci. Il a plongé sa famille et tout son peuple avec lui dans le péché. Exode 12, versets 29 à 30. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né du Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né captif dans sa prison et jusqu'à tout premier-né du bétail. Le Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eût un mort. Waouh! 10 plaies. Tu ne veux pas laisser partir ton peuple? Voilà ce qui arrive. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais regardez la deuxième partie de ce verset. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors oui, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Ces sacrifices dans Exode 12 annonçaient et préfiguraient la venue d'un autre agneau qui arrivera 1500 ans plus tard. L'agneau de Dieu, Jésus, qui lui viendra opérer une délivrance, mais tellement plus grande. Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dieu a envoyé son fils Jésus sur cette terre pour mourir à la croix, pour prendre nos péchés, afin que nous soyons justifiés, libérés. Alors oui, on l'entend dimanche après dimanche, mais je pense que ce matin, c'est important de s'en rappeler. Il y a eu l'agneau qui a été sacrifié pour que cette nuit-là, le peuple ne soit pas touché. Mais on a un agneau qui a donné sa vie pour nous, pour que nous soyons libérés, les amis. Comme le peuple d'Israël a été arraché de l'Égypte pour rentrer dans le pays promis, de la même façon par le sacrifice de Jésus, c'est nous qui avons été arrachés des ténèbres pour être amenés dans le royaume de Dieu, dans sa lumière. Alors est-ce qu'on le réalise ce matin? Ou est-ce qu'on l'entend tellement qu'en fait c'est devenu normal et on vit avec? Est-ce qu'on le réalise ça? La bonne nouvelle, c'est Jean 3,16. Vous connaissez ce verset aussi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans ce verset, c'est écrit quiconque croit. Quiconque. Pas juste l'élite, pas juste certains. Quiconque croit. Et on l'a évoqué lorsqu'on a pris la Sainte Cène ce matin. Andrew a lu un passage, moi j'aimerais vous en lire un autre, dans Luc 22, au verset 19. L'heure venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Il prit une coupe, rendit grâce et dit, prenez cette coupe, distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe après le repas et la donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. On l'a lu pour la Sainte Cène. Je le relis là. J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Dans ce passage, on voit que 1500 ans plus tard, au temps de Jésus, le peuple d'Israël se remémore encore et encore et encore ce qui s'est passé cette nuit-là. Dans le passage qu'on vient de lire, c'est le premier jour de la fête des pains sans levain. Mais c'est aussi le dernier repas de Jésus. Et c'est à cette table que Jésus annonçait que son corps allait être donné, que son sang allait être versé. Donc on mentionne le pain sans levain. On parle du vin qui représente le sang de Jésus. Mais nulle part il est mention de l'agneau ce soir-là. Pourtant, Luc 22, verset 8, Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ce soir-là, il n'y a pas d'agneau à table. L'agneau, c'est Jésus. C'est lui qui va donner son corps en sacrifice. C'est lui qui sera arrêté cette nuit-là et qui sera crucifié le lendemain. Le sang de l'agneau aspergé sur les linteaux la nuit de la dernière plaie est maintenant remplacé par le sang de Christ, le sang de Jésus. Et ce n'est pas comme une protection pour nous, c'est une protection pour nous. Sur nous, sur nos vies, sur nos enfants, sur nos familles. Par le sang de Jésus, on va l'avoir au mur, par le sang de Jésus, nos consciences sont purifiées. Hébreux 9, 14. Par le sang de Jésus, nous avons un accès libre à Dieu dans l'adoration et la prière. Hébreux 10, 19. Par le sang de Jésus, nous pouvons progressivement être purifiés de tout péché. 1 Jean 1, 7. Par le sang de Jésus, nous pouvons vaincre l'accusateur des frères. Apocalypse 12, 10. Par le sang de Jésus, nous sommes libérés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. 1 Pierre 1, 18. Il y a un passage que j'aime beaucoup, c'est Ésaïe 53. Je ne vais pas lire ce matin. Mais si vous pouvez, notez-vous-le quelque part. Lire Ésaïe 53. C'est un de mes passages préférés dans la parole. Et je vais juste lire la fin. Il a porté le péché de beaucoup. Et il a intercédé pour les coupables. Le péché de beaucoup. Beaucoup, c'est nous. C'est de nous dont la Bible parle. Et Jésus est cet agneau que Dieu a donné en sacrifice pour que nous soyons libres. Vous savez que j'aime bien vous poser des questions. Alors du coup, j'ai une question. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu faire différemment pour libérer son peuple que d'attendre 430 ans? Est-ce qu'il n'y avait pas une façon plus rapide et plus simple? Question ouverte, vous pouvez répondre. Est-ce que Jésus pouvait ne pas faire différemment aussi avec Lazare qui est mort? Il aurait pu aller voir Lazare beaucoup plus vite. Lazare n'était pas bien. Hop, guéri. Chut, on n'en parle plus. Il aurait pu. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? On le lit dans Exode 10. Pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. Pour que le peuple d'Israël obtienne la faveur des Égyptiens. Pour reconnaître que je suis l'Éternel. Le plan de Dieu, c'était de faire sortir son peuple. Oui, évidemment. Il avait promis un pays où coule le lait et le miel. Mais son plan parfait, c'était qu'avec ça, tous voient sa gloire. de génération en génération, pour enseigner Israël, pour nous enseigner encore aujourd'hui, et pour laisser une marque indélébile sur ce qui s'est passé, et pour qu'on s'en rappelle. Exode 12, 24. Vous observerez cela comme une prescription pour vous, pour vos fils, et à perpétuité. Aujourd'hui, on continue à prendre la Sainte Cène. Pourquoi ? On veut se remémorer de ce que Jésus a fait à la croix, pour nous. Et Pâques et la fête des pains sans levain n'étaient pas simplement un rituel. C'était une école de foi. Et à travers la Pâque, Dieu enseignait trois choses importantes que je voudrais mentionner ce matin. Garder la foi, obéir et se tenir prêt. Garder la foi même quand la délivrance n'est pas visible. Obéir même quand ce que Dieu demande paraît étrange. Et se tenir prêt parce que Dieu peut agir à n'importe quel moment. Alors gardez la foi, même quand la délivrance n'est pas visible. Hébreux 11, verset 1. Vous connaissez ce passage. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne veux pas tout vous lire, mais j'ai choisi quelques passages. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. C'est par la foi que Noé construisit une arche. C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Et après, on verra plus tard, c'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge. La liste est encore longue. Mes amis, c'est par la foi qu'il y a des dizaines d'années, des hommes se sont levés et ont implanté cette église. C'est par la foi qu'ils ont fait un crédit et qu'aujourd'hui, on est libéré de ce crédit. Amen. C'est par la foi que nous avons commencer un groupe de vie à Saint-Étienne-du-Gré et que peut-être demain, nous irons impacter ce désert spirituel qu'il y a dans ce secteur-là. Maintenant, imaginez la foi qu'il fallait au bout de 430 ans pour espérer une libération. Le peuple a vu la main de Dieu, sa souveraineté, sa toute-puissance parce qu'ils ont enduré l'esclavage et ils ont enduré les premières plaies, les trois premières. Mais à partir de la quatrième, l'Éternel fait une démarcation claire et nette. Et à partir de là, tout le peuple d'Israël est libéré, préservé. Et pour continuer avec la foi, dans Hébreux 11, verset 28, c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. J'ai vraiment envie de nous encourager ce matin. Gardons la foi. Peu importe les circonstances, peu importe la situation, peu importe là où vous êtes, et on l'a prié ce matin, on a reçu des paroles concernant ça. Gardons la foi. Ce que Dieu promet, Dieu le fait. Ce que Dieu dit, ça se réalise. Et on l'a dans Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'Adam pour avoir du regret. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne le maintiendra-t-il pas ? Où Josué 21, 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. 1 Roi 8, 56. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon tout ce qu'il avait dit, de toutes les paroles favorables qu'il avait dites par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, aucune parole n'est restée sans effet. Gardons la foi dans la parole de Dieu. Maintenant, obéir. Obéir même quand ce que Dieu me demande me dérange. On m'a dit qu'il y avait un message qui avait été apporté il y a quelques mois sur le sujet de l'obéissance. Jonas, je vous invite à le réécouter. Et je ne vais pas refaire tout un speech sur l'obéissance. Mais je veux souligner un verset, Exode 12, verset 28. Les Israélites s'en allèrent et firent exactement ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Et c'est répété juste après au verset 50. Tous les Israélites firent exactement ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Et vous commencez à me connaître. J'aime bien parcourir la Bible pour aller chercher d'autres exemples. En tout cas, c'est comme ça qu'on m'a formé. Genèse 6. Noé obéit et construit son arche selon toutes les instructions de Dieu, malgré l'incompréhension du monde. Genèse 22. Abraham se lève tôt pour sacrifier son propre fils Isaac lorsque Dieu le demande. Wow. Moi, je vois mon fils, mon premier-né, Enam. Quand je le regarde et que je lis ce passage, je me dis, mais quelle obéissance. Josué 6. Il marche chaque jour autour de Jéricho, exactement comme Dieu l'a demandé. Matthieu 4, en parlant des disciples. Simon et André abandonnent leur métier, ils abandonnent leur filet, ils abandonnent leur sécurité et ils vont suivre Jésus. Des exemples comme ça, il y en a plein la Bible. Le point commun de tous, c'est qu'ils ont tous obéi. Alors oui, certains ont dit « je ne suis pas capable, je suis trop petit, je suis trop vieux, je suis trop jeune. » Mais ils ont tous fini par obéir. Et je veux dire ce matin que l'obéissance transforme ton cœur. L'obéissance transforme mon cœur. Avant même de transformer la situation. Donc obéissons. Le peuple d'Israël était disposé à voir le miraculeux cette nuit-là. Ils ont obéi. Ils ont eu la foi. Ils ont gardé la foi. Ils ont obéi. Et regardez ce qui se passe à la toute fin du chapitre 12, au verset 51. Ce jour précis, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les Israélites en troupes organisées. 430 ans d'esclavage. Et on arrive à la fin de ce chapitre. Il les fait sortir. Alors la dernière chose, se tenir prêt. Parce que Dieu peut agir à n'importe quel moment. Regardez comment Dieu leur demande de manger la Pâque. Exode 12, verset 11. Voici comment vous la mangerez. Une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et votre bâton, Marie, votre bâton à la main. Je taquine Marie parce que ce matin, Marie a une parole pour moi, elle me voyait avec le bâton. Vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. La ceinture aux reins, sandales aux pieds et bâton à la main. Ceinture aux reins. Je me suis renseigné sur ce que ça voulait dire, sur ce que ça signifiait. Et en fait, à l'époque, ils avaient de longs vêtements. Il était impossible, avec ces longs vêtements, de pouvoir marcher vite, de pouvoir courir. Donc, quand Dieu demande de mettre une ceinture aux reins, c'est pour tout ranger, tout mettre à part. Mettre de la discipline dans sa tenue pour pouvoir être en mesure de pouvoir courir. Et la discipline, c'est quoi ? Des temps de prière, des temps de lecture dans la parole, des temps d'intimité avec le Père. Sandales aux pieds, symbole de la disponibilité. Ça veut dire oui quand Dieu demande quelque chose, quand une porte s'ouvre, même si c'est inconfortable. Être prêt, c'est pas être parfait. Être prêt, c'est être disponible. Immédiatement. Et puis enfin, bâton à la main. Le bâton, j'en ai parlé dans Exode 3-4 avec Moïse. C'est le symbole de la direction, de la mission. C'est ce que vous avez, c'est ce que nous avons dans la main. C'est ce à quoi Dieu nous appelle, c'est notre mission. Et c'est aussi la direction dans laquelle Dieu veut que nous avancions. Et Dieu savait que le peuple d'Israël allait se faire chasser cette nuit-là et qu'il allait se faire chasser rapidement. Et Dieu sait aussi exactement ce qu'il a prévu de faire avec chacun de nous ici ce matin. Là où nous sommes, dans ce que nous sommes, dans ce que nous entreprenons, dans nos priorités, Dieu sait toutes choses. Alors dans la Pâque, on a parlé de l'agneau, on a parlé du sang de l'agneau. Et il y a deux choses par contre dont on n'a pas parlé, et pourtant que j'ai lu un petit peu plus haut. C'est les herbes amères et le pain sans levain. Et dans les deux prochaines heures, J'aimerais qu'on passe du temps sur ces deux points et puis ensuite on fera l'AG. Ça vous va ? Non, je veux juste finir avec ça et vous laisser deux petits détails, mais qui, selon moi, ont leur importance. Dieu recommande de manger l'agneau avec des herbes amères. Je ne m'étais jamais penché dessus. Je posais la question hier soir à ma femme. Est-ce que tu sais pourquoi ? Ce qui m'a rassuré, c'est qu'elle ne savait pas non plus. Exode 1, verset 14. « Ils leur rendirent la vie amère par un rude travail. » Et en fait, les herbes amères sont là pour se souvenir de l'amertume du travail et de l'esclavage. Verset 15. « Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous supprimerez le levain de vos maisons. » Alors, oui, ils n'ont pas eu le temps de faire lever la pâte. Et oui, il y a cette signification-là. Mais en fait, dans la Bible, le vin est presque toujours symbole du péché. Et comme un tout petit peu de levain imprègne toute la pâte, voire même la pâte qu'il y a à côté, de la même façon, un tout petit peu de péché peut imprégner toute une personne et les personnes à côté. Et Jésus nous en parle dans Luc 12, verset 1, sur ces entrefaits. Les gens s'étant rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres, Jésus se mit à dire en premier lieu à ses disciples, « Gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. » Et je lisais un commentaire en préparant ce message qui dit « La piété affichée sans véritable sainteté est comme le levain. » Elle croît progressivement et répand la corruption, gonflant la personne de vanité. Le mensonge et l'hypocrisie peuvent empoisonner tout le caractère d'une personne. Un tout petit peu de levain peut contaminer toute la pâte. Et peut-être que ce matin, c'est le moment d'identifier c'est quoi le levain en ce moment dans ma vie. C'est quoi ce petit levain, cette petite dose de levain que j'ai dans ma vie, ce petit péché qui m'empêche de rentrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour moi. Paul nous encourage dans 1 Corinthiens 5, 7. Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, ni avec un levain de perfidie et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. La sincérité et la vérité, c'est à ça que Dieu nous appelle. C'est comme ça qu'il veut que nous marchions. Alors pour conclure, je voudrais vous laisser juste 3 points. Gardons la foi. Continuons à mettre en pratique ce que Dieu nous demande de faire, même si on ne voit pas encore les choses bouger, même si on ne voit pas encore le résultat. Mettons-nous en marche. Obéissons, parce que Dieu ne cherche pas des gens qualifiés. Dieu cherche des gens disponibles, des serviteurs disponibles. On l'a dit sur la prédication des disciples. Dieu ne cherchait pas des gens parfaits, mais vraiment des disponibles. Remettons pas à demain ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Avançons, osons, servons. Une église comme ça, pour qu'elle tourne, elle a besoin de serviteurs, elle a besoin de volontaires. Engageons-nous. Et puis finalement, tenons-nous prêts. Apprenons à dire, Seigneur, parle-moi. Parce que moi, je suis prêt, je suis disponible, je veux te suivre, je veux marcher à tes côtés. Persévérons dans la prière. Laissons-nous transformer, aiguiser, émonder. Vous connaissez ce verset avec le nouveau vin dans les vieilles outres. Dieu veut nous faire rentrer dans une nouvelle saison, mais il ne le fera pas avec des vieilles outres. Il ne mettra pas du nouveau vin dans une vieille outre. dans de vieilles outres. Alors retirons ce levain et enlevons peut-être ces choses qui nous empêchent d'obéir. Peut-être que c'est des habitudes, des attitudes, des distractions, ou peut-être simplement des mauvaises influences, des personnes qu'il y a autour de nous. Et faisons de la place à la présence de Dieu dans notre rythme, dans nos priorités, dans nos journées. Obéir, se tenir prêt, garder la foi, c'est pas simplement le dimanche ou c'est pas simplement quand ça commence à aller mal, c'est tous les jours. Et je veux nous laisser ce matin avec deux versets. Et promis, c'est les derniers. 2 Pierre 3, versets 14 à 15. C'est pourquoi, bien aimé dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvé par lui sans tâche et sans défaut dans la paix. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Et 1 Jean 3:3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui, le Seigneur, est pur. Cette nuit-là, Dieu a passé ce message au peuple d'Israël. Respectez mes prescriptions. Faites ça. Et ce que j'ai promis, vous le verrez s'accomplir. Jésus a donné sa vie pour nous. Continuons à nous plonger dans sa parole. Continuons à vouloir le découvrir. Continuons à vouloir cette intimité, cette présence. Parce que ce que Dieu dit, Dieu le fait. Amen. Soyez bénis.